le transfert de population d'un continent à l'autre, constituant ainsi l'armée de réserve du capitalisme qui permet à quelques grands patrons d'exploiter les travailleurs français.
L'offensive sociale de la présidente du FN semble porter ses fruits. Selon un récent sondage, elle recueillerait près de 36% des intentions de vote des ouvriers au premier tour.
Alors, Zev Sternel, je suis très content de vous rencontrer.
Merci. J'ai sous les yeux un bouquin qui fait 1072 pages.
1072
beaucoup pages. De papier.
Beaucoup de papier, beaucoup d'années de travail. Ça s'intitule « Ni droite ni gauche, l'idéologie fasciste en France ». Et vous travaillez sur ce sujet depuis de très nombreuses années. Et votre travail fait polémique. Pour résumer, vous allez me reprendre immédiatement. Vous dites, oui, la France, les Français s'imaginent avoir été vaccinés, immunisés contre le fascisme, si on prend l'histoire du XXe siècle. Le fascisme, c'est ailleurs, c'était en Allemagne, c'était en Espagne, etc. Mais nous, oui, bien sûr, on a une petite période, Vichy, etc. Mais enfin, voilà, maintenant, cet animal-là, ce monstre, s'est éloigné. Si on regarde la presse ces jours-ci, on voit beaucoup d'inquiétudes par rapport au Front National. Et on voit aussi beaucoup de gens qui sont rassurés par le Front National, puisqu'on dit, oui, oh, finalement, ce Front National, dans la version Marine Le Pen, est acceptable. Il y a une dédiabolisation du Front National. Alors, entre fascisme et Front National, quel lien peut exister? Y a-t-il un lien? Vous allez nous le dire. Mais d'abord, il faudrait que vous reveniez un petit peu, en quelques mots, on a peu de temps, sur ce long travail et comment vous avez pu mettre en lumière ce fascisme français.
Ça s'est passé en étapes. Ça a commencé par ma thèse de doctorat sur Maurice Barrès. La suite, c'était la droite révolutionnaire, c'est-à-dire c'est un concept que j'ai créé, si vous voulez, pour montrer que il existait en France, comme ailleurs, mais ici nous parlons de la France, une droite qui, elle, n'entrait pas dans le cadre des trois droites traditionnelles dont avait parlé mon maître, René Raymond. Et lorsque je suis arrivé dans l'entre-deux-guerres, c'était ni droite ni gauche. De Barrès, je me suis aperçu que, tout d'abord, la Grande Guerre n'a pas créé le fascisme ni l'extrême droite. Je me suis aperçu qu'il existait de continuité à partir des années 80 du 19e siècle, lorsqu'émerge une droite nouvelle, une droite révolutionnaire avec des éléments prolétariens, mais anti-marxiste et anti-libéral. C'est alors que se forge cette synthèse d'anti-marxisme et d'anti-libéralisme qu'on appelle souvent matérialisme. Le marxisme et le libéralisme sont des matérialismes. Pourquoi? Parce que pour le marxisme, comme pour le libéralisme traditionnel, l'individu est l'objectif final de toute action politique et sociale. Ils divergent sur les voies à y parvenir, mais le bien de l'individu, c'est l'objectif aussi bien des libéraux que des marxistes. Les nouveaux venus, eux, ils pensent que la nation précède l'individu, que l'individu existe pour le service de la nation, de la collectivité, et non pas la collectivité pour le service de l'individu. Alors, puisque vous m'avez posé cette question, je me permets de rappeler la définition de la nation telle qu'elle est donnée par l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Au milieu du XVIIIe siècle, la nation est définie en deux lignes. La nation, c'est un ensemble, une grande multitude de peuples, on dit, qui vit sur un même territoire, dans des frontières communes et soumis au même gouvernement. Point final, rien d'autre. On ne parle ni d'histoire, ni de culture, ni d'ethnie, ni de religion, rien. Une définition politique et juridique de la nation. C'est l'acte de naissance du citoyen.
On ne parle pas de sol, on ne parle pas de sang.
Rien. C'est l'acte de naissance du citoyen Et évidemment, la déclaration des droits de l'homme et de la citoyenne découle de cette définition. 100 ans plus tard,